Vous écoutez
RMC.
Excellent lundi à tous, on est bien sur RMC et il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Et à 8h, nous serons sur le chemin de l'école qui reprend ce matin. Les pieds dans l'eau dans les villes encore inondées de l'ouest de la France. À Saintes, par exemple, les écoles ont été obligées de s'organiser. Nous irons aussi dans un petit village de Bretagne où personne ne veut se présenter aux élections municipales. C'est pourtant les derniers jours pour déposer les listes. Et nous serons également dans les Alpes, dans ce journal où les médaillés français des Jeux Olympiques seront célébrés en fin de journée.
Et c'est une rentrée de vacances très particulière ce matin dans l'ouest de la France.
Oui, puisque l'école reprend dans la zone A, c'est la zone de Saintes, une des villes encore inondées, et où la reprise se fait donc les pieds dans l'eau à cause de la crue de la Charente. Pierre Bourgès, vous êtes en direct de cette ville de Saintes ce matin pour RMC, et vous nous dites qu'il a fallu tout repenser pour cette rentrée.
Ben oui, exactement. Quentin, on se prépare ce matin. Je me trouve devant l'école Pasteur, dans le centre de Saintes. Les agents périscolaires sont arrivés il y a à peu près une demi-heure. Les professeurs aussi, ils sont prêts à accueillir deux classes supplémentaires aujourd'hui. Il s'agit en fait d'élèves de CP, CE1 et CE2 de l'école Paul Bert, qui restera quant à elle fermée aujourd'hui à cause des inondations, tout simplement. Et alors, eh bien, comment on s'adapte? Écoutez cette agente de Paul Bert, l'école fermée, venue en renfort ce matin ici.
Tout a été bien programmé pour que ça se passe au mieux pour les familles et surtout pour les enfants, parce que c'est vrai que c'est un changement pour eux. Donc effectivement, accompagner les enfants qui vont être de l'autre école pour qu'ils se sentent au mieux dans cette nouvelle cour. Mais de toute façon, faut qu'on s'adapte. Il n'y a pas trop de choix.
Faisons le point ce matin sur ce qui change à Saintes. Au total, 5 établissements différents de la ville vont accueillir 8 classes venant des 3 écoles fermées à cause des crues. C'est la solution qu'a trouvée la mairie pour pouvoir assurer cette rentrée des classes. Pour le moment, la décrue s'annonce lente, très lente. Les écoles impactées par les inondations pourraient donc être restées fermées toute la semaine. Il y a tout de même une bonne nouvelle. Après plus d'un mois de pluie, la rentrée scolaire à Saintes va se faire au sec.
Et ça fait du bien, Pierre Bourgès, effectivement, les bonnes nouvelles. Un peu plus au nord, le niveau de l'eau va baisser, mais alors seulement d'une dizaine de centimètres. Aujourd'hui, à Angers, où un réseau de 2 km de planches surélevées, souvent des planches en bois, a été bricolé en fait pour permettre aux habitants de ne pas marcher les pieds dans l'eau. Aux États-Unis, c'est une tempête de neige qui touche la ville de New York. Quasi confinement décrété là-bas. Interdiction carrément de se déplacer. La ville est à l'arrêt. Tempête la plus violente depuis 10 ans, nous dit-on. Jusqu'à 70 cm de neige attendue là dans les prochaines heures. C'est la deuxième depuis le début de l'année. Et on se souvient que la première avait fait une centaine de morts. Le climat s'est à nouveau tendu ce week-end entre la France et les États-Unis avec l'affaire du militant, la mort du militant nationaliste Quentin Derenck à Lyon, vous souvenez, il y a 10 jours. L'ambassadeur américain à Paris, Charles Kushner, proche de Donald Trump, est à nouveau convoqué au Quai d'Orsay. Ce sera aujourd'hui, en fin de journée. Pour les commentaires américains sur cette affaire, l'administration Trump ayant dénoncé, je cite, « l'extrémisme violent de la gauche en hausse dans le pays ». Sonia Gobry, du service politique RMC, cette intervention déplaît à la France.
Pour le chef de la diplomatie française, c'est de l'ingérence, d'où cette réponse ferme. Nous refusons toute instrumentalisation à des fins politiques de la mort de Quentin Derenck. Et Jean-Noël Barrot ajoute que la France n'a aucune leçon à recevoir de ce qu'il appelle l'international réactionnaire. Après ce premier recadrage, l'ambassadeur des États-Unis est donc convoqué ce soir à 19h au Quai d'Orsay, selon une source diplomatique, mais elle n'est pas en mesure de dire qui recevra Charles Kushner. On ne sait pas non plus s'il sera présent. En août dernier, il a déjà été sommé de s'expliquer après des critiques jugées inacceptables par Paris sur l'absence d'actions suffisantes contre l'antisémitisme. Mais le diplomate américain a séché la convocation. Il a envoyé un chargé d'affaires à sa place.
C'est une course contre la montre qui commence ce matin dans de nombreuses communes, puisque c'est la dernière semaine pour déposer les listes des municipales. Il y a jusqu'à jeudi en fin de journée pour le faire. Et alors le souci, c'est que par endroit, personne ne veut devenir maire. Un exemple avec vous, Thomas Becker du service politique à RMC, le village breton de Kermaria-Sulard, où le maire ne se représentera pas.
Oui, Pierre Housset fait le tour de sa commune pour rappeler le rôle du maire.
Moi, je ne suis pas le maire de la commune. Quand je me présente, je dis je suis l'animateur de la commune.
Engagé dans sa commune depuis plus de 30 ans et maire depuis 2020, à 74 ans, il veut passer la main.
J'avais dit à mon épouse que je faisais un mandat. J'ai fait 70 heures par semaine.
Une tâche à plein temps, d'où la difficulté pour constituer une liste. Et d'ailleurs, quand on cherche dans le village, difficile de trouver des volontaires. Emmanuelle n'a pas le temps, elle est déjà présidente des parents d'élèves.
On ne peut pas être et engagé au niveau associatif et dans les communes, on ne peut pas être partout, surtout quand on a des enfants en bas âge aussi.
Être élu, c'est aussi attirer les critiques, un rôle qui n'est pas fait pour tout le monde, estime Thomas.
Cette tâche qui peut amener de la confrontation, voilà, faut aussi imposer ses idées, imposer ses joies.
Guy, élu municipal, est en première ligne pour essuyer les critiques. Il aimerait bien que les gens s'engagent.
On peut aller à l'extérieur, mais au moins on s'investit. C'est ce que je leur dis à chaque fois. Bah, où se péter, venez prendre la place. Et puis, vous verrez ce que c'est.
Ils cherchent toujours des volontaires, car sans liste, la commune risque d'être mise sous la tutelle de la préfecture. Il y en a eu une centaine lors des précédentes élections municipales.
Et alors, c'est la tradition, et encore plus en période de campagne électorale, les responsables politiques qui vont défiler toute la semaine, vous allez les voir au Salon de l'Agriculture à Paris. Évidemment, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, est sur place et elle va présenter aujourd'hui un plan d'action visant à renforcer la place des femmes dans le secteur. Les chiffres montrent qu'elles sont de moins en moins nombreuses dans ce secteur très masculin. La preuve, écoutez avec Marion Dégas pour RMC.
À 16 ans, Mathilde projette déjà de reprendre l'élevage de moutons de son père, mais pour certaines tâches trop physiques, elle doit trouver des solutions.
Il y a des choses comme retourner un bélier, je ne vais pas pouvoir le faire avec ma force à moi. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui ont été faites, comme les cages de retournement par exemple pour faire les ongles des pieds des animaux, pour que nous les femmes on puisse le faire.
Cyrielle étudie en lycée agricole, dans sa classe elles sont seulement 7 filles pour 40 garçons.
40 garçons, c'est pas toujours évident, enfin faut montrer qu'on a du caractère, qu'on se laisse pas faire.
Audrey, elle jongle entre sa vie à la ferme et sa vie de maman.
Pour l'instant, mon fils va en crèche, donc il y a des horaires à respecter, sauf que l'élevage continue malgré tout.
Et elle a une angoisse.
Elle manquait certains moments de la vie quotidienne. On aimerait passer les dimanches matins avec lui.
La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, s'attaque justement à ce sujet.
Il faut des systèmes de garde adaptés à la vie rurale, organiser les services de remplacement, parce qu'aujourd'hui, les femmes retravaillent même pendant leur congé de maternité.
En remplaçant et à 6 mois de grossesse, une agricultrice m'a même confié avoir dû se charger seul du vélage d'une de ses vaches.
Et notez que les grandes gueules, les GG, seront en direct du Salon de l'Agriculture ce matin, en direct du stand des Hauts-de-France. Ils y sont de 9h à midi, n'hésitez pas à aller les voir.
Les Jeux Olympiques, ils sont terminés en Italie.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan Cortina.
Passage de témoin avec la France hier soir lors de la cérémonie de clôture aux arènes de Vérone. C'était magnifique, les présidents des régions Sud et Auvergne-Rhône-Alpes ont récupéré le drapeau olympique. Mais la fête n'est pas finie puisque les médaillés français sont célébrés en fin de journée à Albertville. Léna Marjac, on va rapidement se tourner sur les JO 2030 dans les Alpes françaises.
Comme un symbole, 34 ans après les Jeux d'Albertville, le drapeau olympique revient en terre française. Au lendemain des JO de Milan Cortina, place donc à Alpes 2030. Pendant cette journée festive où Albertville sera le cœur de l'olympisme, les médaillés du biathlon, Quentin Fillon-Maillet, Éric Perrault, la skieuse Romane Miradoli ou encore Emilia Ropp, championne olympique de ski alpinisme, seront tous célébrés devant plus de 6000 personnes au cœur de la halle olympique d'Albertville. Un moment de communion entre le public, d'anciens sportifs des JO de 92, mais aussi avec les athlètes paralympiques qui débuteront leur JO dans 2 semaines. Puis, pour clôturer cet événement, les chasseurs alpins du régiment de Savoie déploieront le drapeau olympique lors d'une descente en rappel le long du mât.
Et le Super Moscato Show sera en direct d'Albertville cet après-midi pour revenir notamment aussi sur la victoire de l'équipe de France de rugby 33-8 hier contre l'Italie. 3e victoire en 3 matchs dans le tournoi destination. Le prochain, dans 2 semaines, ce sera en Écosse.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08, place à l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, le chiffre, plus d'une annonce sur 4 diffusée sur les réseaux sociaux, c'est en fait une arnaque.
28% exactement des annonces publicitaires diffusées sur les plateformes des réseaux sociaux en France sont des arnaques. C'est ce que montre une étude des chercheurs de Gen Street Labs. Étude réalisée sur les réseaux sociaux de Meta. Les réseaux sociaux de Meta, c'est Instagram, c'est WhatsApp, c'est Facebook. C'est le 2e plus gros acteur de la publicité numérique dans le monde, mais il n'y a pas de raison que ce soit mieux sur les autres réseaux sociaux. Arnaque qui serait le produit d'une véritable industrie, puisque plus de la moitié de ces fausses publicités proviennent de seulement 10 annonceurs, souvent localisés en Asie du Sud-Est, notamment en Chine et à Hong Kong.
Et quand on parle d'annonces bidons, on parle de quoi exactement ?
Alors, beaucoup de contrefaçons de grandes marques. On vous propose de la bijouterie, de la maroquinerie, de la mode, des montres notamment, à des prix extrêmement bas. C'est aussi beaucoup de placements financiers qui promettent des rendements totalement fous, avec des témoignages truqués à l'intelligence artificielle de patrons, de journalistes, voire de ministres qui vous encouragent à investir. Il y a une pub célèbre de Bernard Arnault, par exemple, qui en gros vous dit « Donnez-moi 500 euros, au bout d'un mois, vous aurez 20 000 euros. » Moi, j'ai j'ai des fausses pubs où je donne des investissements. Alors un peu avec une voix neurasthénique, hein, voilà. Mais bon, c'est attention, ne vous laissez jamais prendre. Aucun journaliste ne vous donnera jamais des conseils d'investissement dans telle boîte ou dans telle boîte. C'est aussi les fausses boutiques en ligne avec des promotions délirantes, hein, les moins 70%. C'est des faux concours cadeaux, c'est des produits santé miracle, des faux emplois. Beaucoup de propositions aussi, vous savez, pour télétravailler et où ça vous rémunère grassement en fait en faisant pas grand chose. Meta a annoncé avoir retiré plus de 134 millions, je dis bien millions, d'annonces mensongères sur ces plateformes. Et pourtant, les Français auraient perdu plus de 7 milliards d'euros à cause d'arnaques en ligne en 2025, nous dit l'Alliance mondiale anti-arnaque. C'est 750 euros en moyenne par arnaque.
Ah ouais, quand même. Alors ça veut dire que les Français ne sont pas assez préparés, éduqués, pas assez vigilants.
Exactement. Ça, c'est ce que montre une étude que vient de publier l'INSEE. 34% des plus de 16 ans ont des lacunes en matière de compétences numériques. 55% chez les plus de 60 ans. Alors, ça va à peu près pour envoyer des mails, appeler par Internet, consulter son compte bancaire. Par contre, c'est vraiment pas terrible dans notamment tout ce qui concerne la protection et la confidentialité des données et de la vie privée.
C'était l'économie avec Emmanuel Le Chypre, il est
8h11. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Dans un instant, le meilleur d'Arnaud Demange sur RMC. Notez qu'à 8h30, mon invité dans le face-à-face, c'est Bernard Cazeneuve, l'ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre, des saluts nazis dans la marche en hommage à Quentin Derenque, la question du cordon sanitaire contre LFI. Est-ce qu'on est en train de passer du tous anti-RN au tous anti-LFI? Quelle position doit avoir la gauche et le Parti Socialiste? Réponse donc de Bernard Cazeneuve. Rendez-vous à 8h30 sur RMC et BFM TV. On se retrouve dans un instant. À tout de suite, 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h14 sur RMC et sur RMC Story. Alors, il a pris quelques jours de vacances, mais il est quand même présent. On en a gardé le meilleur d'Arnaud Demange.
Bonjour les amis. Allez, pour démarrer la journée, un sourire, Apolline. Car on va parler du député Rassemblement National, Mathias Renaud. On s'est foutu de sa gueule partout, mais pas encore ici. Et c'était pas très juste. Il était temps de réparer. Parce qu'il a voulu supprimer les subventions du festival Les Transmusicales de Rennes. Ah oui. Il croyait que c'était un festival de promotion des transgenres dans la musique. Donc ça aurait été quoi? Un festival avec que Raïm Redcar, anciennement Christine and the Queens, qui s'appellera Frigidaire Tournebeuf l'année prochaine, on ne sait pas. Mais bon, Mathias Renaud, il faut faire attention. Transavia n'est pas une compagnie aérienne avec des avions pilotés par des drag queens.
Salut les loulous, ici Lolita Banana, votre pilote assisté du commandant Zouzou Barbichou. La température en cabine est très chaude. Le décollage est immédiat, même si c'est pas facile de piloter avec des talons et des ongles de 20 cm. Attachez vos ceintures, c'est parti pour toute la night.
Et le pauvre Mathias Renaud. Cuisse de poulet ou queue de lotte?
Je veux sortir d'ici.
Donc les pays transfrontaliers, c'est pareil. Il n'y a pas de transgenre à toutes nos frontières, voilà. À part en Allemagne, avec des femmes de 95 kilos de muscles et une moustache. Et si tu prends un transsibérien, c'est pas Vladimir Poutine sous œstrogène qui te fait l'amour. Sa vie doit être un enfer.
La France a envoyé des soldats au Groenland pour un exercice avec plusieurs pays européens, suscitant la fureur de Donald Trump.
Oui, c'est fou, hein. Les États-Unis et le Danemark se disputent le Groenland alors qu'il y a 6 mois, tout le monde s'en foutait. Ça me rappelle un peu quand le gouvernement et les insoumis se sont mis à se battre pour avoir le PS.
Ah ouais?
Voilà. Le Groenland, c'est le Olivier Faure du monde occidental. Le Groenland ne veut pas rejoindre les États-Unis. Mais alors, à leur décharge, Trump les a mal dragués quand même. C'est un mauvais dragueur, Trump, on va pas se mentir. Je dis pas ça pour critiquer sa femme, elle est très bien, sa femme, même si la mienne est mieux. Et qu'en plus, elle est moins chère. Mais pour conquérir le Groenland, au lieu d'aller les baratiner en leur disant « J'adore votre culture, vos paysages, votre singularité », il leur a juste dit « J'ai besoin de votre pays pour m'en servir comme bouclier antimissile ». Alors vraiment, c'est comme draguer une meuf en lui disant « J'ai besoin de toi pour me soulager 2 fois par semaine et on fera des bébés pour qu'ils peinent aux retraites ». C'est pas glamour.
Le gouvernement va envoyer une lettre à tous les Français de 29 ans.
Oui, la France, comme Jeffrey Epstein, a besoin d'enfants. Oh, alors par contre, une lettre de Le Cornu pour relancer la natalité, oui. Est-ce que ça vous motive,
Apollon? Oui, j'ai un petit doute sur l'efficacité.
Est-ce que, tu recherches les célibataires les plus fertiles à moins de 5 km de chez toi? Tu veux rencontrer les géniteurs les plus chauds de ta région? Alors inscris-toi sur France Levrette. Et inscris-toi à la crèche aussi, parce qu'il y a 3 ans d'attente. Voilà. Si vous appelez ça, c'est parce que vous avez appelé un numère au vert.
Ah, elle est bonne. Numère au vert, elle est excellente.
Moi, j'aurais proposé à Bruno Le Maire d'écrire la lettre.
Ah oui.
Citoyenne, tu es chaude et moite.
Oh,
et soudain, tu aperçois un cotisant français torse nu sur une plage de sable fin. L'envie de créer un nouveau ménage imposable fait durcir tes mamelons patriotes.
T'es sûr, Bruno? Il y a quelques années, souvenez-vous, on disait pas ça, on disait attention à la surpopulation, ne faites pas d'enfants, c'est du carbone, oui. Ça rendait tout le monde coupable. D'ailleurs, moi, c'était ma défense numéro un pour prendre l'avion. Je disais, m'en fous, j'ai pas d'enfants. Ouais, mais ça veut pas dire que t'as le droit de prendre l'avion. Non, ça veut dire que j'ai les moyens de prendre l'avion.
C'était le meilleur d'Arnaud de Manche. Et à 8h18, je voudrais qu'on puisse féliciter Arnaud. Bonjour Arnaud.
Oui, bonjour Pauline.
Arnaud, c'est vous qui avez gagné. Félicitations.
Eh ben, en tout cas, écoutez, un grand merci, super content. Merci RMC, parce que je suis un fidèle auditeur depuis au moins plus de 15 ans. Voilà. Et donc,
bah, ça paye.
Ouais, exactement, ça paye. En tout cas, vous êtes tous super, ne changez rien. Je suis vraiment très, très ému. Et, écoutez,
on est content.
À toute l'équipe.
On est très content pour vous. Très content pour vous. Arnaud, vous vivez où?
Alors, j'habite dans les Ardennes, à Noyers-Pont-Mougy, dans un petit village près de Sedan.
Alors, vous allez pouvoir donc gagner ce séjour. Vous l'avez gagné, hein, donc une valeur de 2000 euros. Vous allez pouvoir partir une semaine dans les clubs et hôtels Bellambra. Vous savez déjà où vous avez envie de partir?
Oui, dans le sud de la France.
Ah, dans le sud, au soleil.
Exactement.
On en veut du soleil.
Le sud dans le nord, forcément.
Je vous comprends tellement. Merci Arnaud, en tout cas, de votre fidélité. Et on est très, très heureux de pouvoir vous récompenser avec ce séjour que vous avez gagné. On vous fait gagner toute la semaine vos vacances sur RMC dans Apolline Matin. Il est 8h19. Et dans un instant, le face-à-face. Mon invité, c'est Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre. On va revenir évidemment sur la manifestation de samedi, mais aussi sur la position du Parti Socialiste vis-à-vis de LFI. Y a-t-il un avant et un après Quentin? Quelle doit être la position du Parti Socialiste? Vous savez quoi? Je vais faire réagir au propos de Nadine. Vous l'avez peut-être entendu, cette auditrice, ancienne militante du Parti Socialiste, qui aujourd'hui se dit eh bien que s'il y a LFI face au RN, elle serait plutôt tentée de voter RN. J'interroge Bernard Cazeneuve dans un instant sur RMC et BFM TV. À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
Ambiance tendue hier soir au Salon de l'Agriculture où une rixe a éclaté sur un stand de nougat. 15 personnes ont été interpellées, 2 membres des forces de l'ordre légèrement blessés. Pour l'heure, on ne connaît pas le motif de cette altercation. Son retour était très attendu. Le guichet MaPrimeRénov' rouvre aujourd'hui. Après 2 mois de suspension faute de budget, le dispositif d'aide à la rénovation énergétique fait son retour à midi pour déposer vos dossiers. Avec une nouveauté, le rendez-vous obligatoire pour les travaux d'ampleur afin de limiter les fraudes. L'ambassadeur des États-Unis en France, convoqué ce soir au Quai d'Orsay, Charles Kushner, qui va devoir s'expliquer après les récentes sorties de l'administration Trump sur la mort en France du jeune identitaire Quentin Derenque. 3/5, les Bleus du rugby poursuivent leur très beau parcours dans le tournoi Destination. Ils ont battu hier l'Italie 33-8. Eux sont de retour en France, gonflés à bloc pour le passage de relais des Jeux Olympiques d'hiver entre Milan-Cortina et les Alpes 2030. Nos athlètes tricolores vont célébrer leur victoire à Albertville, en Savoie. Dans l'Ouest, ça y est, la décrue est amorcée, mais elle s'annonce lente. Et ce matin, 3 départements sont toujours en alerte rouge. La Loire-Atlantique, la Charente-Maritime et le Maine-et-Loire. 3 autres en vigilance orange. Vendée, Sarthe et Charente. La journée sera plutôt calme aujourd'hui, malgré quelques pluies faibles des pays de la Loire au Grand Est. Soleil dans le sud de l'Aquitaine, à la Méditerranée, avec pas mal de mistral et de tramontane. Beaucoup de douceur pour tout le monde. Cet après-midi, il fera entre 12 et 15 degrés sur la moitié nord, jusqu'à 22 près de la Méditerranée. Dans le détail, ça commence à 11 à Aurillac, 12 à Lille, 14 degrés à La Rochelle, Rouen, Nancy et Strasbourg, 16 à Grenoble et Nice, 18 à Ajaccio, 21 à Montpellier et 22 degrés à Perpignan.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
quand la compta va, tout va.
C'était le rappel des titres d'Élise Danjean. Dans un instant, mon invité est ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre, Bernard Cazeneuve. Il avait quitté le Parti Socialiste au moment des alliances avec LFI. Aujourd'hui, il dit, voilà, je l'avais prévu. Il demande à ce que le Parti Socialiste soit extrêmement clair sur les alliances. Donc, c'est Bernard Cazeneuve, mon invité, dans un instant sur RMC BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Bernard Cazeneuve.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. Vous avez aujourd'hui une forme de réserve, je dirais. Vous parlez assez peu, mais si vous voulez vous exprimer ce matin, c'est parce que pour vous, nous sommes dans un moment charnière. Vous aviez quitté le Parti Socialiste en 2022 après l'accord passé avec la France Insoumise, une formation politique dont j'ai eu à subir la violence, dites-vous, on va y revenir, mais pour vous, aujourd'hui, ça n'est que la confirmation de ce que vous aviez vu, une forme de rupture entre LFI et le Parti Socialiste ?
D'abord, nous étions très peu nombreux en 2022 à nous indigner de l'alliance qui avait été signée entre le Parti Socialiste et LFI. Et lorsque le nouveau Front Populaire a été constitué en 2024, j'étais le seul à indiquer que cette alliance, par son programme, par... l'arrimage à LFI posait un problème politique majeur. Aujourd'hui, que constate-t-on ? On constate que tout ce qui avait été pressenti concernant cette formation politique, sa pente antisémite, sa violence extrême, sa relation ambiguë aux institutions de la République et aux principes de l'État de droit, tous ces sujets ressurgissent. Ils ressurgissent de manière violente parce que l'organisation elle-même est violente et tout cela pose un problème politique et morale éminent. Voilà où nous en sommes et je pense qu'il faut en tirer désormais toutes les conclusions en rompant définitivement avec la France Insoumise, ce qu'un certain nombre d'élus commencent à faire. J'ai vu que la maire de Rennes avait indiqué hier qu'il n'y aurait d'alliance ni au premier ni au second tour. Et moi je souhaite que la gauche de gouvernement, la gauche humaniste, la gauche héritière de Blum, de Jaurès, de Pierre Mendès France, de Camus, de Robert Badinter prennent des positions extrêmement claires
Bernard
et rompent définitivement avec la France.
Ça veut dire que lorsque vous entendez encore aujourd'hui les dirigeants du Parti Socialiste qui prennent leur distance mais qui disent toujours qu'au cas par cas, il pourrait y avoir des alliances, vous vous dites non, fini, jamais.
Jamais. Je pense que nous ne redresserons pas politiquement le pays au moment où le risque principal est celui de l'extrême droite, si nous maintenons ce type d'ambiguïté. Lorsque la situation est aussi grave qu'elle l'est, que le risque de basculement est aussi visible qu'il l'est, il n'y a qu'une réponse possible, celle de la plus grande clarté.
Avec une question qui est quand même, est-ce que en disant tout sauf LFI, vous n'êtes pas en train de faire en quelque sorte un passage de relais au RN. Je voudrais vous faire écouter les propos de Nadine. Nadine, elle a été pendant très longtemps militante au Parti Socialiste avant de rejoindre Place Publique. Et comme vous, elle a quitté Place Publique en 2024.
Mais moi, été membre de Place Publique.
Non, pas Place Publique, mais elle a quitté la gauche. Vous-même, vous aviez quitté le Parti Socialiste. Elle était à ce moment-là à Place Publique. Mais elle les a quittés pour les mêmes raisons que vous, c'est-à-dire à cause de l'alliance qui avait été passée, le nouveau Front Populaire. Eh bien, Nadine, elle m'a appelé sur RMC ce matin. Pour elle, je voudrais que vous puissiez justement l'écouter et réagir. Pour elle, au fond, désormais, il en va d'être même finalement à aller voter pour le RN contre LFI. Écoutez. Ça veut dire, Nadine, non mais c'est très intéressant, Nadine, ça veut dire que vous qui avez toujours milité au Parti Socialiste, aujourd'hui, vous vous dites, ben, je finirai par voter RN contre LFI.
Oui, ben mes copains qui ont quitté le PS sont là aussi, hein, je suis pas la seule.
Ah non, mais moi je suis pas là pour juger, je dis juste que c'est étonnant et j'imagine que ça se fait dans la douleur quand même.
Ah ben oui, mais vu les positions que peuvent prendre les gens de gauche aujourd'hui, ils sont dans les communautarismes aussi, le PS aussi a largement fait pour aider à ce qu'on fasse monter les communautaristes, les antisémites, parce que c'est quand même la réalité. On a fait élire des gens, enfin je veux dire, c'est à marcher sur la tête d'entendre le PS parler comme ça. Quand j'entends Jérôme Gage, je suis sur le cul.
Bernard Cazeneuve, qu'est-ce que vous dites à Nadine ? Elle va voter RN contre LFI.
Je pense qu'elle a tort et je ne suis pas du tout sur cette position-là. Pour moi, le principal adversaire, celui contre lequel il faut se mobiliser, c'est le Rassemblement National, parce que c'est lui qui est en situation de prendre les rênes du pays. C'est précisément parce que je ne veux pas du Rassemblement National que je préconise la plus grande clarté dans l'alliance avec la France Insoumise, parce que la France Insoumise est une machine à fabriquer du vote RN, par ses outrances, par ses excès, par la violence qu'elle finit par instaurer dans la vie politique, avec les groupes d'extrême droite. Ces deux groupes se font face. Jean-Luc Mélenchon avait théorisé d'ailleurs sa stratégie il y a 10 ans, en disant qu'à la fin, il y aurait eux et nous. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait LFI et RN, qu'il faut qu'il y ait une autre voie, et c'est précisément parce que le RN est en situation de prendre le pouvoir en France que je ne veux pas de cette alliance avec LFI, parce qu'on voit que LFI, par ses comportements, engendre du vote RN. Jean-Luc Mélenchon, c'est Charlie Chaplin dans les temps modernes. À chaque fois qu'il bouge un bras, il fabrique une voix RN. Et c'est
pour
ça
vous,
qu'il faut
Jean-Luc
arrêter.
Mélenchon fait monter le RN.
Mais tout dans la stratégie et l'attitude de LFI est destiné à organiser la confrontation entre LFI et le Rassemblement National. Ce n'est pas moi qui le dis. Jean-Luc Mélenchon lui-même l'a théorisé en disant « à la fin, il y aura eux et nous ». C'est leur stratégie, c'est leur volonté commune. Faut-il, si l'on est républicain, et si on veut absolument éviter le basculement du pays vers le dégagisme et la violence extrême, encourager cette stratégie en prenant la position que Nadine prenait tout à l'heure? Non, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire en sorte que cette confrontation n'ait pas lieu en créant les conditions d'une autre voie. Et cette autre voie, c'est le rassemblement des Français autour d'une stratégie claire concernant la relation avec les dégagismes et notamment pour ce qui concerne la gauche avec LFI. Et la volonté,
un rassemblement
le plus large possible.
Mais c'est quoi le plus large possible? On va y venir. Mais vous savez quoi, Bernard Cazeneuve, je voudrais quand même vous interroger sur les propos. Nadine évoquait la question de Jérôme Guedj. Jérôme Guedj, il fait partie de ceux qui ont été les plus virulents à l'encontre de la France insoumise.
Mais il a eu raison.
Et aujourd'hui, il dit... Je ferai toujours tout pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Je ne mets pas un signe égal entre le Rassemblement National et la France Insoumise. Je préfère voter pour le candidat tel quel qu'il soit face au Rassemblement National, même s'il est LFI.
Mais je pense que Jérôme Guedj a été extrêmement courageux dans les positions qu'il a prises au cours des derniers mois. Et il en a subi les conséquences dans ses circonscriptions.
Et pourtant, aujourd'hui, il dit « je voterai LFI ».
Je pense qu'il tombe dans un piège quand il prend cette position-là. Je pense que nous ne devons pas acter une confrontation dont nous ne voulons pas. Nous devons tout faire par notre stratégie, par notre parole, par notre volonté pour l'éviter. Moi, je ne choisis pas entre la peste et le choléra, je choisis le vaccin.
Manuel Valls dit que lui, il voterait blanc
Mais
dans ce cas-là.
Je pense que Manuel Valls, quand il dit cela, tombe également dans un piège.
En fait, vous ne voulez même pas répondre à cette question.
Je pense que cette question-là, en y répondant, on accrédite cette confrontation qui est la confrontation dont rêvent les dégagismes qui, dans leur face-à-face, veulent occuper tout l'espace
politique.
Enfin,
moi, je veux bien que vous rêviez que cette situation n'existe pas, mais tout de même...
Mais je pense que c'est tout à fait possible que cette confrontation n'existe pas, d'abord parce que dans l'état actuel du paysage politique, LFI n'a aucune chance de gagner les élections présidentielles. La seule utilité d'LFI, c'est de permettre au RN de la gagner pour qu'ensuite cette confrontation se poursuive une fois que le RN sera au pouvoir. Et je constate aussi que si le rassemblement des Français est possible entre ces deux dégagismes, alors nous les éviterons. Et quiconque est républicain responsable doit tout faire pour ouvrir cette voie. C'est la stratégie que je préconise.
On va y venir, ce rassemblement le plus large possible du centre et de la gauche. Mais un mot sur l'expression que vous avez utilisée. Vous avez dit, à propos d'LFI, c'est une formation dont j'ai eu à subir la violence. J'ai retrouvé les mots de Jean-Luc Mélenchon à votre endroit. Il a parlé de vous comme, je cite, « le gars » qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraîche. Le gars qui a fait gazer toutes les manifestations et qui prend maintenant sa tête de petite Sainte-Nitouche. Rémi Fraîche, il faut le rappeler, c'était ce militant ce militant écologiste tué par l'explosion d'une grenade lors d'un affrontement avec les forces de l'ordre en marge de la mobilisation contre le projet de barrage de Sivens. À l'époque, vous étiez le ministre de l'Intérieur. Vous étiez, aux yeux de Jean-Luc Mélenchon, je cite, le gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraîche.
J'ai porté plainte en diffamation contre Jean-Luc Mélenchon après ses propos. Il est venu d'ailleurs à votre antenne pour expliquer que tout cela était excellent, que la vérité serait faite. Plusieurs convocations lui ont été adressées. Il ne s'est pas rendu à ces convocations. Et lorsque mon avocat a demandé la levée de son immunité parlementaire, ce sont les parlementaires de la majorité qui se sont opposés à la levée de son immunité. Voilà ce qui s'est passé. Donc, vous savez...
Je vous sens très grave sur cet instant.
Mais je suis très grave sur ce sujet parce que on parle depuis quelques jours de l'exploitation abjecte qui a été faite de l'assassinat de Quentin à Lyon. L'exploitation abjecte politique qui serait faite à l'encontre de LFI. Mais par vos propos, rappelés à l'instant, enfin pas vos propos, les propos de Jean-Luc Mélenchon que vous venez de rappeler, on voit ce dont ils sont capables. On voit comment ils exercent eux-mêmes la violence en désignant des cibles.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'à l'inverse, eux-mêmes avaient exploité en quelque sorte la mort de Rémi Fraisse.
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu recours à la justice, ce qui est normal de la part d'un républicain attaché au principe de l'état de droit, et il s'est passé exactement ce que je viens de vous indiquer.
Au fond, ils estiment aujourd'hui d'avoir la responsabilité, mais ils avaient considéré que vous en aviez une, vous, dans la mort de Rémi Fraisse.
Moi, j'ai donné toutes les instructions qui ont été les miennes dans cette nuit tragique à l'Assemblée nationale qui a conduit une commission d'enquête. Il y a eu un jugement qui a été rendu. À aucun moment je n'ai été mis en cause pour la bonne et simple raison que les consignes que j'ai données tout au long de cette nuit tragique et dans les jours qui ont précédé étaient des consignes de modération dans l'usage de la force parce que je redoutais que ce drame intervienne. Mais peu importe la vérité pour ces acteurs. Ce que ces acteurs souhaitent, c'est mettre en cause l'État et ceux qui en assurent la responsabilité lorsque des drames, des tragédies de ce type se produisent, parce que toute leur idéologie est la police tue. Il y a une consubstantialité de la violence à la police et de l'État à la violence. C'est leur stratégie. Peu importe la vérité, seul compte le but politique et les méthodes qui sont utilisées pour atteindre ce but sont celles que vous venez d'évoquer en rappelant leurs propos. Moi, je suis resté à ce moment-là dans la réserve, je crois dans la dignité de la parole. J'ai dit quelle était ma responsabilité au moment de cette tragédie en donnant à l'Assemblée nationale et à la justice tous les éléments dont elle souhaitait disposer. À aucun moment je n'ai été mis en cause, mais ça n'a pas empêché ces acteurs de se comporter comme ils se sont comportés. Pourquoi ? Parce que leur modalité, c'est la tension, c'est la violence, en espérant que cette violence et cette tension servent leur stratégie politique.
Désormais, il y a des groupuscules qui manifestent, ça a été le cas samedi à Lyon, cette marche en hommage à Quentin, 3200 personnes. Alors le RN avait refusé d'y participer, la plupart des partis d'ailleurs ont invité à ne pas y participer. Il y a eu des saluts nazis, il y a eu des slogans d'ultra-droite, la préfecture du Rhône a estimé qu'il fallait désormais saisir même la justice au sujet de ces saluts nazis et ces insultes racistes et homophobes qui ont été donc détectés à Lyon. Est-ce que vous redoutez que l'on entre dans un moment de confrontation qui pourrait conduire à ce que certains appellent la guerre civile ?
Mais je ne redoute pas qu'on entre dans un moment de confrontation. Ce qui s'est passé à Lyon est la matérialisation du fait que cette confrontation a commencé. Et qui aurait imaginé, il y a de cela simplement quelques mois ou quelques années, qu'ont pu manifester dans la ville où Klaus Barbie a commis les crimes que l'on sait, où le père de Robert Badinter a été arrêté avant d'être envoyé en déportation, avec des saluts nazis, avec des propos racistes, xénophobes, homophobes. Qui aurait pu imaginer cela ? Et qui aurait pu imaginer qu'une formation politique de gauche puisse entretenir avec ce que l'on peut appeler une milice, la jeune garde, des relations aussi étroites en assumant aussi ostensiblement cette relation, alors même que cette organisation a été dissoute parce qu'elle représentait un risque de troubles graves à l'ordre public, et que certains de ses membres, par ailleurs collaborateurs d'un parlementaire en exercice, ont été mis en cause pour les violences ayant occasionné...
Pour vous, la responsabilité, au moins morale, elle est directe.
Mais je considère qu'à partir du moment où ces faits sont établis, la seule chose qu'est à faire la France insoumise, c'est à exprimer ses regrets, à rompre avec tous ceux qui, dans cette organisation, ont commis ou ont été à l'origine de ces violences, qu'elle reconnaisse sa faute, plutôt que d'affirmer sa solidarité, que de soutenir le parlementaire dont les collaborateurs ont été mis en cause, comme si la violence était sans conséquence.
Bernard Cazeneuve, vous prenez un large rassemblement du centre et de la gauche. Ça va d'où à où ?
Ça va de tout le pôle social-démocrate, c'est-à-dire de la gauche de gouvernement, jusque aux franges de l'actuelle majorité.
Vous prenez qui à droite? Vous prenez Bruno Retailleau? Vous prenez Édouard Philippe? Vous prenez qui?
Non, mais moi je prends les électeurs. C'est-à-dire ce qu'il faut aujourd'hui, c'est créer les conditions pour que la clarté du discours, la volonté de redressement du pays, la détermination à sauver les institutions républicaines de la menace d'extrême violence qui pèse sur elles, conduisent au rassemblement le plus large possible des Français autour de l'Union claire. Je pense que ce rassemblement sera d'autant plus simple qu'il se fera autour du pôle social-démocrate, et qu'il sera d'autant plus facile à opérer, qu'il s'opérera dans la clarté sur les valeurs de la République, la nécessité de défendre fermement les principes de l'état de droit et l'ordre républicain, qu'il se fera aussi autour d'une ambition de justice sociale et fiscale, qui ne va pas sans efficacité économique, etc.
C'est un programme sur lequel vous invitez qui à travailler, c'est-à-dire que est-ce que du côté, on a bien compris qu'il y aurait le Parti Socialiste, s'il rompt nettement avec LFI.
Le Parti Socialiste doit rompre, mais le Parti Socialiste ne doit pas seulement rompre, il doit désormais rassembler en son sein tous ses enfants, toutes ses composantes.
Mais enfin, vous-même, vous en êtes parti.
Mais j'en suis parti précisément parce que la ligne était celle que je condamne. Mais le Parti Socialiste peut, à un moment donné, faire lucidement le constat de l'impasse dans laquelle il s'est engagé et qui met le pays en situation de risque de basculement vers le RN, et créer les conditions d'un rassemblement large qui permette d'éviter
ce basculement. Dans ce cas-là, vous seriez prêt à en être.
Mais je suis, de toutes les façons, toujours prêt à privilégier des logiques collectives sur des logiques individuelles. Croyez-moi, je n'ai pas quitté le Parti Socialiste avec bonheur. Je l'ai quitté pour des raisons qui tenaient à mes convictions, je n'ai pas quitté par dépit, et je ne s'y suis pas demeuré non plus par calcul. Donc je suis prêt à y revenir s'il y a, au lendemain des élections municipales, un acte de large rassemblement permettant à la social-démocratie de se mettre au cœur du paysage politique pour créer les conditions d'un rassemblement large des Français permettant d'éviter le RN.
François Hollande, chez nos confrères de la Tribune dimanche, a dit « C'est aux Français de dire qui est le meilleur, ça peut être une personnalité qui apporte un renouvellement, Raphaël Glucksmann ou Bernard Cazeneuve qui apporte une grande expérience. » Est-ce que vous y réfléchissez ?
Moi, je ne réfléchis pas à ma situation personnelle. Je réfléchis à la situation du pays. Si je peux, compte tenu du contexte, apporter une contribution utile, je le ferai. Il y a mille manières de servir. On peut servir en étant candidat à l'élection présidentielle, on peut servir en appartenant à une équipe. Moi, je ne fais pas de cette affaire une affaire personnelle. Je ne manœuvre pas, je cherche pas un chemin pour moi-même. Je cherche à éviter le pire dans un moment de gravité extrême. Et je pense qu'il est possible de le faire si on arrête la multiplication des candidatures à l'élection présidentielle, si l'on prend la mesure de la gravité de la situation, et si tous ceux qui sont dans
primaire,
le camp républicain...
Est-ce qu'il faut une primaire?
À gauche, certainement pas. À gauche, il faut que la famille social-démocrate se reconstitue en
mais
se
rassemblant. Mais ensuite, éventuellement une primaire pour élargir.
Non, que cette famille désigne un candidat, que le bloc central ne multiplie pas lui aussi les candidatures, et nous verrons bien dans la dynamique de la campagne qui est celui qui est le mieux.
Si je comprends bien, Bernard Cazeneuve, ça veut dire que vous dites, en gros, il faudrait que du côté de la gauche républicaine, on se mette d'accord sur une personnalité. Si du côté de la droite et du centre, ils se mettent d'accord, je sais pas, par exemple, sur Édouard Philippe, voilà, ça en fait deux, et ensemble, ensuite, on voit lequel est le plus fort.
On verra ensuite qui est en situation de battre le Rassemblement national. Car l'objectif, encore une fois, c'est de battre le Rassemblement national. LFI n'est pas en situation de gagner l'élection présidentielle, mais elle est en situation d'aider le RN à la gagner pour des raisons qui tiennent à son
comportement. Donc en gros, pour vous, il faut oublier LFI et se concentrer sur le projet.
Il faut remettre le pôle social-démocrate en situation de domination à gauche, avoir une position extrêmement claire à l'égard de LFI et combattre cette organisation compte tenu des positions qui sont les siennes et créer ensuite les conditions d'un large rassemblement qui permettra d'éviter le rassemblement.
Merci beaucoup Bernard Cazeneuve d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes l'ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. Tiens, votre dernier livre, Un chien parmi les loups, c'est aux éditions de l'Observatoire. Il est 8h47 et vous êtes bien sûr RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Souvenez-vous, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, était mon invité dans le face-à-face et Laurent Wauquiez avait souhaité réagir.
Oui, bonjour Mme Malherbe. Bonjour, oui, je suis en face de vous, oui. Oui, je sais que vous kiffez quand on attaque cette rubrique un lundi matin avec Laurent Wauquiez.
Avec
qui? Je sais que je te plais, Apolline. Moi, Le Georges Clooney du Puy-en-Velay. Bref, bravo à Laurent Nunez. Franchement, c'est beau comme il a géré. Il a réussi en quelques mois la lourde tâche de redresser le ministère de l'Intérieur. Un ministère de l'Intérieur laissé dans un état déplorable, il faut rappeler, après le passage lamentable d'un homme qui était plus intéressé par ses ambitions présidentielles que par la sécurité de nos concitoyens.
Vous parlez évidemment de Bruno Retailleau.
Voyez, je n'ai même pas cité son nom, vous savez tout de suite de qui je parle. Tellement il a marqué les esprits en plongeant le pays dans le chaos. Alors, cher Laurent Nunez, si vous avez des conseils à me donner pour réussir à succéder à Retailleau à la tête des Républicains quand il va se planter dans peu de temps, eh bien, je suis preneur.
Merci beaucoup, Laurent Wauquiez.
De rien, mon poussin.
Non, évidemment.
Oui. Bonjour, bonjour à tous. Salut mes fans. Salut. Oui, bah oui, pour vous, je remets les lunettes de beau gosse.
Hein.
Même si j'en ai plus besoin, vous avez vu. Malheureusement, je suis guéri. Voilà, c'est le problème. C'est con parce que j'avais pris une popularité de ouf. Je vais faire confidence à Pauline ce matin. J'ai failli me remettre du tabasco dans les yeux.
Mais non.
On pourra les remettre.
Bon, alors, monsieur le président, un mot sur Roland Lescure.
Écoutez, je tenais à saluer Roland, c'est mon gars solide, hein, sur qui je peux compter, mon gars qui va faire disparaître la dette. Hein, mon Roland, hein, t'as un an pour nettoyer le bordel. C'est pas non plus, c'est pas non plus mission impossible.
Ah, mission impossible, je l'ai, rapport aux lunettes. Ça paraît quand même ambitieux, hein, franchement.
Ben, entre vous et moi, bon, ben, si mon Roland n'arrive pas, c'est pas très grave, hein, comme d'hab, on mettra tout sur le dos de Bruno Le Maire. Hein. Moi, je vais finir mon mandat tranquillou sur l'international, je préfère. Hein, en essayant d'éviter une troisième guerre mondiale, voilà. Ben oui, vous savez, héros du monde libre, sur un CV, ça sonne mieux que le gars, ce qui est marqué sur la carte de visite, a réussi à faire augmenter le PIB de 0,83%.
Moscato
arrive. Vous voulez
dire à la
panique
Roland Lescure. Ah, bonjour Vincent.
MC, le stress. On a le ministre de l'économie et des finances, il débarque de Gaulle. Il faut qu'il trouve 3000 milliards de pognon. Je l'ai croisé en l'eau, il cherchait la monnaie, tu vois la machine à café. Mais je me suis la main, j'ai quand même reconté mes doigts. Tu vois, le mec, il te pique tout, tu vois. Et là, le slip, le portefeuille, j'ai plaqué le slip. Précaution. Les mecs, les patrons à BFM Business, tout plaqué sur la table, ils disent que je cachais le ministre de l'économie partout.
Voilà, franchement.
Ah ben oui, bah attends, on risque le contrôle fiscal, le RMC. Oui. On fait pognon de dingue, on risque le contrôle. Pour petit déjeuner, t'as vu, ils ont supprimé toutes les viennoiseries. Faut faire pitié. Donc, ils ont acheté chez Lidl, ils ont acheté de la margarine et du pain de mie périmée, on dirait du carton. Pitié dans le parking souterrain, plus de bagnole, Unix. La Porsche d'Aurel Gate disparu, la Jaguar de Marchand, plus rien. La Bentley de demain, j'ai plus rien. La Rolls le chiffre, plus rien. T'as vu juste la Fiat pendant de Texel. Et bien sûr, la bétaillère d'Apolline, parce que quand même, il faut qu'elle transporte ses 4 boutards.
T'es sur la molicou, ma Pauline de Malherbe. Ça va, moi, sœur Abdoulo? Oui. Bah, déjà, je pense que présidente de l'Institut du Monde Arabe, oui, c'est un poste taillé pour moi, ça. Je suis celle qui connaît le mieux le monde arabe, puisque je suis né à Dakar. Hein. C'est vous dire si je m'y connais en géopolitique. Hein. Puis depuis 2 semaines, notez que je suis présidente de l'association France-Algérie.
Oui, on a vu, oui.
Hein. Alors, j'espère que ce sera moi, Inch'Allah. Hein. Oui, si. D'ailleurs, je remercie par avance le président Macron, hein, pour ma nomination à venir. Choukran, Sidi Macron. Vous voyez donc, je maîtrise parfaitement aussi la danse du ventre.
Je vois. Le ministre des Affaires étrangères a fait savoir qu'il prendrait le temps nécessaire, hein, pour trouver la personne idéale. J'imagine qu'il vérifiera le passé, le passif même de chaque candidat. Hein.
Vérifier le passé, le passif. Oui, mais ça ne m'arrange pas du tout, ça.
Ah oui,
bah oui, parce que s'il fouille un peu, il va vite voir que moi aussi, dans le temps, j'ai eu des relations très proches avec un homme qui préférait les femmes plus jeunes. Hein.
Ah oui.
Mais je ne le savais pas, il faisait ça dans mon dos. Puis bah, c'était pas au niveau d'Epstein, hein. C'était pas en jet privé, c'était en scooter. Mais tout le monde sait que dès que j'ai découvert le poteau rose, j'ai mis tout de suite fin à cette relation.
Ah,
hein.
Oui.
J'ai coupé les ponts, je suis clean.
Vous êtes blanc comme
Jack Lang, enfin presque.
Philippe Devilliers, bonjour. Vous êtes choqué par Jack Lang?
Évidemment.
Ce qui est choquant, mais c'est même Malherbe, c'est pas tant cette histoire de annexe de pédocriminalité. Assez News, bah oui, Assez News, nous sommes ouverts d'esprit sur le sujet. Et puis il y a des, et puis la notion du pardon. Est-ce pratique le pardon? Non. Ce qui est fou, c'est l'existence sur le territoire d'un institut du monde arabe. Et en plus, avec à sa tête un socialiste. On est en plein islamo-gauchisme.
Selon vous, qui devrait prendre la présidence de l'Institut du monde arabe?
Qui? On s'en fout, c'est personne. L'urgence, elle n'est pas là, elle n'est pas de nommer quelqu'un, c'est de démanteler de toute urgence ce repère de terroristes. Hein, faut arrêter avec ces orgies lubriques d'ayatollah dans des jacuzzis de pétrole. Hein, franchement, non, mais, l'Institut du monde arabe, et pourquoi pas bientôt à Paris une grande mosquée, hein, tant qu'on y est.
Ça existe déjà, la grande mosquée de Paris.
Quoi? Alors c'est quoi la suite? Les tours de Notre-Dame transformées en minaret, c'est ça, hein, le Sacré-Cœur en hammam et l'Élysée en grand palais du grand vizir, hein, c'est ça.
Les agriculteurs en colère qui bloquaient l'autoroute A64 ont été délogés par les forces de l'ordre. Et on fait le point avec Jérôme Bail, bonjour.
Moi j'ai pas besoin qu'on me pousse pour rentrer à Paris. Je suis rentré direct à la ferme parce que j'ai appris une terrible nouvelle. Il y a eu un drame à la ferme.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ma femme est partie.
Oh là là. Ah, je comprends, c'est très dur.
Mais non, mais je m'en fous qu'elle soit barrée. Ce qui m'a fait mal, c'est qu'elle s'est barrée avec...
Avec qui?
Elle s'est barrée avec... Avec un éleveur de bovins argentés.
Oh non.
Depuis le jeudi, j'ai dit que c'était la concurrence déloyale, bien sûr. Lui, voilà, c'est la concurrence déloyale. Lui, il est plus bandit que moi. Il a un joli accent. Il n'a pas besoin de mettre une casquette parce que lui... Il a des cheveux, lui. La concurrence déloyale.
Merci Nicolas. Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain à 8h50 et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG avec Olivier Truchot. Bonjour Olivier, quel est le menu?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les grandes gueules, elles sont là, elles se préparent en direct du salon de l'agriculture. Des grandes gueules qui sont all set sur le stand de la région Hauts-de-France. On va débattre bien sûr des sujets concernant les agriculteurs, mais pas seulement, de l'actualité. Donc si vous êtes dans les parages, rejoignez-nous au salon de l'agriculture avec autour de la table Didier Giraud, bien sûr, notre éleveur de bovins, Joël Dagossiri et Charles Consigny. À tout de suite.